Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle saison du commentaire de la Paracha avec, comme chaque semaine, le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, monsieur le grand rabbin Harold Avraham Weil, ou Avraham Harold Weil, c'est comme vous voulez. Bonjour monsieur le grand rabbin.
Bonjour Jean, vous êtes en forme aujourd'hui.
Oui, comment allez-vous ?
Très bien, merci beaucoup. En réalité, c'est surtout la communauté qui est importante, au-delà de ma personne, et je suis vraiment ravi que Baruch HaShem, eh bien, nos malades se portent de mieux en mieux et que notre communauté se rétablisse. Et vraiment, on souhaite que les prochaines semaines aillent dans le bon sens et qu'on puisse avoir une refoua shlema et une excellente santé pour l'ensemble de nos membres.
Amen. On rappelle que ce Shabbat, ce sera le Shabbat Kitavo, l'allumage des bougies aujourd'hui. Alors, il faut se référer évidemment à sa synagogue pour l'allumage des bougies. Vous avez tous les renseignements dans le Shabbat Shalom, mais en général, cette semaine, c'est à 19h50. La fin du Shabbat, ce sera demain à partir de 20h48. Voilà pour ces horaires qui sont uniquement valables pour Strasbourg et sa région. On voudrait, et vous l'avez dit, monsieur le grand rabbin, dédier cette émission pour évidemment l'élévation de l'âme de toutes les personnes qui nous ont quittés dernièrement pendant cette pandémie, et souhaiter donc une refoua shlema à toutes les personnes qui ont encore été touchées, et on leur souhaite évidemment une refoua shlema et beaucoup de courage. Dédier également cette émission à la mémoire de Simcha Bat Mesrouda et de Mesrouda Bat Rivka. Et on va terminer évidemment par quelque chose un peu plus joyeux. On souhaite un grand Mazal Tov à Sacha Cohen, qui fêtera sa bar mitzvah demain. Mazal Tov aux parents et aux grands-parents. Vous serez, je crois, demain avec Sacha pour la bar mitzvah qui se déroulera demain matin. Voilà, on a tout dit. Évidemment, on va parler de la paracha, Kitavo. Mais avant, on ne pouvait pas parler de la paracha sans parler et sans revenir sur cette épidémie du coronavirus. Il y a beaucoup de rabbins qui ont interprété cette arrivée du coronavirus, chacun avec sa vision, chacun avec son avis. Quel est le vôtre, monsieur le grand rabbin ? Pourquoi c'est arrivé ?
Alors, vous imaginez bien que je ne répondrai pas à cette question, je n'y répondrai pas à cette antenne, pas plus que je n'y répondrai d'ailleurs hors antenne, tout simplement parce que je crois qu'il n'y a pas de réponse toute faite et qu'il faut se méfier, il faut même avoir peur et éventuellement s'éloigner des personnes, même si certains se présentent sous l'étiquette de rabbanim, mais qui voudraient vendre des réponses toutes faites, trouver toutes sortes d'interprétations. On peut avoir des pistes de réflexion. Bien sûr, ce moment ne doit laisser personne insensible, et j'espère bien que ce qu'il a engendré en termes de bouleversement chez chacune et chacun d'entre nous a produit son effet et nous a permis de repenser un petit peu notre existence. Chacun a vécu les choses d'une manière très différente. Maintenant, venir donner des grandes leçons d'histoire ou vouloir se mettre à la place de Dieu pour expliquer ses décisions, ce serait non seulement prétentieux, mais j'irais même plus loin, ce serait même particulièrement dangereux. Donc, vous comprenez bien que je ne me risquerais pas à vouloir donner des interprétations sur ce que nous avons vécu de traumatisant.
Chacun aura son explication, c'est ça que vous voulez dire ?
Tout à fait, mais je reviens encore une fois sur l'importance malgré tout de se laisser bouleverser par les événements, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que lorsque nous vivons des choses qui sont des choses qui remettent en question la manière dont nous menons notre existence, eh bien, cela doit forcément provoquer des changements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est savoir un petit peu observer ce qui se passe autour de nous, être attentif à la manière dont le monde et dont notre existence se déroule et savoir intercepter certains signaux. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe autour de nous et ça doit nécessairement provoquer un changement. Maintenant, vouloir à tout prix décrypter des moments de l'histoire avec une explication figée, arrêtée, c'est quelque chose de dangereux. Alors, on a été pendant plus de deux mois, confinés chez nous. On s'est retrouvés, bien sûr, en petit comité, éloignés les uns des autres, mais également éloignés de ceux que l'on aime, mais également éloignés de nos lieux de culte, dans l'impossibilité de se rassembler. Or, nous savons à quel point cette vie communautaire est quelque chose de fondamental pour nous, c'est notre quotidien, c'est ce qui vraiment alimente notre existence, le fait de pouvoir échanger, se retrouver, de pouvoir prier ensemble. On ne va pas rappeler maintenant sur cette antenne l'importance de la prière collective, quoi qu'on pourrait le faire à quelques jours de Rosh Hashanah. La valeur de la prière collective dépasse largement celle de la prière individuelle, parce que nous mettons toutes nos qualités ensemble pour ne faire qu'une seule personne, et donc forcément cette prière a plus de poids, elle a plus de force, puisqu'elle revêt les qualités de l'ensemble de ceux qui s'y associent. Et le fait d'avoir été éloigné de ces synagogues doit nous faire réfléchir peut-être au rapport que nous entretenons à la synagogue, au rapport que nous entretenons avec les autres. Et pour autant, dire que ce qui a justifié ce coronavirus, eh bien, ça serait la manière dont on s'est comporté dans les synagogues ou la manière dont nous avons mal géré les rapports avec nos prochains, et que ce serait uniquement cette mauvaise gestion qui serait à l'origine de ce coronavirus, serait quelque chose de dangereux. Et pour autant, une réflexion doit être menée et un changement doit être enclenché. Ça, je crois que c'est quelque chose de vraiment d'élémentaire.
On a dit tout à l'heure, vous êtes le grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Est-ce que c'est facile pour un grand rabbin de décider de fermer les synagogues, de dire qu'on arrête tout? Comment on prend cette décision en avait conscience? C'est l'être humain en premier, sa santé?
Comment? Exactement. Jean, vous posez une question qui est... je crois une question fondamentale. Vous me renvoyez quelques mois en arrière et je revis presque comme si c'était hier ces journées où nous avons dû prendre des décisions extrêmement complexes. Déjà, il faut savoir que ces décisions ont une particularité. C'est que dans le cadre d'une épidémie comme celle que nous avons traversée, qui était tout à fait nouvelle pour nous, eh bien, donc, la singularité du coronavirus, c'est faire face à quelque chose de nouveau. Donc malgré le fait que nous avons la chance à Strasbourg d'avoir une cellule de crise et donc d'avoir des personnes qui sont capables de se réunir très très rapidement et d'avoir un process, de savoir comment enclencher certaines actions urgentes, pour autant, la situation était inédite. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que confronté à quelque chose... ici, il y a une urgence sanitaire. Bon, en principe, toute crise nécessite des décisions urgentes, mais là, particulièrement, eh bien, nous étions dans une crise sanitaire, et donc cette crise sanitaire nous oblige à prendre des décisions assez rapidement. Mais pour autant, il faut quand même se laisser un minimum de réflexion. On ne peut pas agir à chaud, et il faut que ces décisions soient motivées uniquement par des paramètres qui sont vraiment techniques, également par, en tout cas, un minimum de réflexion. On ne peut pas se permettre... uniquement sur l'instinct, sur le coup de l'instinct, de pouvoir trancher. Donc, je veux rassurer les auditrices et les auditeurs, mais je pense qu'ils le savent, que non seulement ces décisions sont concertées, qu'elles sont vraiment basées sur une réflexion extrêmement profonde, que nous avons consulté des spécialistes, et que, bien sûr, lorsqu'un rabbin prend la décision de fermer une synagogue, je peux vous assurer qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur. C'est le dernier recours. Il s'agit de protéger la santé. La santé n'a pas de prix. On l'a dit, on l'a redit. Certains en ont même marre de l'entendre, mais il est quand même important, je pense, de le répéter. Nous ne jouons pas avec la santé des gens. La Torah nous demande, même lorsqu'il y a un petit doute par rapport à un problème de santé et par rapport à la vie d'une personne, eh bien, de ne prendre aucun risque. Et la décision qui s'imposait, là, en l'occurrence, et que nous avons quand même été, je le rappelle, parmi les premiers à prendre, de mémoire, c'était le dimanche 15 mars que nous avons pris cette décision, eh bien, c'était de fermer nos synagogues afin de protéger au maximum nos fidèles.
Revenons à la paracha de la semaine, Kitavo, on ne change pas nous les habitudes, avec le résumé de la paracha, monsieur le grand rabbin.
Tout à fait. Alors, le résumé d'une paracha qui nous rapproche progressivement de la fin des cinq livres de la Torah. Et vous le savez, Jean, cette paracha Kitavo, c'est une paracha qu'on a l'habitude de lire systématiquement avant Rosh Hashanah. Et pour cause, c'est que le gros morceau de notre paracha, de la deuxième partie de notre paracha, est consacré au fameux passage des bénédictions et surtout des malédictions qui sont très nombreuses, ce fameux déséquilibre qu'il y a entre les malédictions et les bénédictions. Et vous connaissez donc ce fameux enseignement de nos sages qui nous dit que l'objectif est de finir l'année avec ses malédictions et de pouvoir commencer la nouvelle année avec les bénédictions, d'où l'intérêt de lire cette paracha de Kitavo, qui est une paracha très très lourde et qui est une paracha assez pesante, assez difficile, assez dure dans les termes qu'elle emploie, eh bien, de pouvoir la lire avant la fin de l'année, de manière à ce que toutes ces malédictions qui sont donc l'essentiel même de notre paracha, eh bien, puissent être lues avant la fin de l'année. et que la nouvelle année puisse commencer sur de bonnes bases, sur les bases de la bénédiction. Pour faire court, la première partie de notre paracha, moi je la diviserai vraiment en deux parties, même s'il y a des petits sujets au milieu, c'est vraiment première partie qui est la mitzvah des bikurim,
oui.
Donc l'obligation d'apporter ses prémices au Beth Amikdash et de les donner au Kohen, et nous allons en parler. Et vraiment la deuxième grande partie de notre paracha qui est consacrée aux bénédictions et aux malédictions, avec, on l'a dit, ce déséquilibre et ces bénédictions particulières violentes, puisqu'elles sont encore plus violentes que dans la paracha de Bechukotai, où nous avons déjà eu affaire à des bénédictions et des malédictions.
Alors, vous l'avez dit, on parle des bikurim dans le début de la paracha, des prémices. C'est quoi le but et le principe de cette mitzvah ?
Alors, cette mitzvah est une mitzvah particulièrement intéressante dans le sens où je précisais il y a un instant que nous nous rapprochons progressivement de la fin du livre de la Torah, que nous allons avoir de moins en moins affaire à des mitzvot, puisque dans les dernières parachutes, il n'y a plus de mitzvot, qu'on prenne le texte de Azinu, enfin quasiment pas, dans le texte de Zot HaBeracha de la dernière paracha, il n'y a pas du tout de mitzvot, c'est des bénédictions que Moïse va délivrer à l'ensemble des tribus avant de quitter ce monde. Et donc, il faut comprendre que lorsque la Torah nous expose les dernières mitzvot, la Torah cherche à nous faire sortir du texte, même si on enchaîne, comme vous le savez, immédiatement avec la paracha de Bereshit, il n'y a jamais de fin chez nous, on termine pour mieux reprendre, mais en tout cas, on le sait, ce avec quoi on va terminer systématiquement un livre ou un enseignement est censé marquer l'esprit du lecteur. Donc si la Torah termine son texte avec ses mitzvot particulières, on va en voir d'autres, mais en tout cas, la mitzvah de Bikurim est l'une des dernières, c'est que cette mitzvah de Bikurim a une importance particulière. Or, cette mitzvah, donc qui consistait à apporter les prémices de ces fruits pour l'agriculteur et à les donner, donc ce qu'on a de plus précieux, parce que vous savez à quel point un agriculteur qui a travaillé la terre, qui a enfin eu le bonheur de voir ses fruits pousser après un travail acharné à la sueur de son front, eh bien, à quel point il chérit ses fruits et l'amour qu'il peut avoir pour son travail, le fait de se séparer de ce premier fruit qui représente, j'ai envie de dire, tout le sens de son travail, quelque chose de difficile psychologiquement, eh bien, on va lui demander justement d'avoir ce recul, d'avoir cette modestie, cette humilité qui lui permet de prendre du recul par rapport aux choses, de se rappeler qu'il n'est en réalité que le partenaire de Dieu, que l'homme n'en vienne pas à se prendre pour un surhomme. Très rapidement, lorsque l'homme travaille la terre, lorsque l'homme voit le résultat du travail de ses mains, et surtout un résultat aussi spectaculaire que celui de la nature. Jean, il n'y a rien de plus spectaculaire que la nature. Je peux vous assurer que même un artisan extrêmement doué qui montrait, par exemple, fabriquerait des objets, quels qu'ils soient, ne peut pas s'émerveiller de la même manière que quelqu'un qui assiste au miracle de la nature, c'est-à-dire avoir ensemencé quelques graines dans la terre et voir tout simplement se réaliser l'impensable, à savoir de véritables produits qui commencent à sortir de la terre. Vraiment, le miracle de la nature est quelque chose de tout à fait extraordinaire, et très rapidement, eh bien, l'homme pourrait venir à se prendre pour un surhomme. Donc on le remet un petit peu à sa place d'homme.
D'accord.
On lui demande de prendre du recul par rapport aux choses, et cette mitzvah-là, eh bien, elle est fondamentale, parce qu'un homme doit absolument quitter le lecteur, qu'il soit agriculteur ou pas, doit quitter absolument le livre de la Torah avec cette modestie, avec ce recul, en comprenant bien quel est le sens de sa place d'homme sur terre.
Alors toujours au début de cette paracha, on évoque un araméen sans jamais citer son nom. De qui s'agit-il et pourquoi on parle de lui ?
Alors tout à fait. Alors c'est un passouk, un verset donc qui intervient au début de notre paracha et qui est dans le récitatif qui accompagnait la mitzvah de Bikurim. Je me permets une petite digression, Jean, qui est tout à fait nécessaire. C'est de rappeler dans la singularité de cette mitzvah de Bikurim le fait qu'il y ait un récitatif qui accompagne le geste. Vous le savez, Jean, en principe, lorsqu'on accomplit une mitzvah, on accomplit un geste particulier, donc qui consiste à faire quelque chose, mais sans pour autant réciter, sans pour autant dire quelque chose. Je ne parle pas maintenant de la mitzvah, de la bénédiction qui a été instituée plus tard par les sages et qui devance la mitzvah avant d'accomplir une mitzvah, nous récitons une bénédiction. Là, il y avait dans la mitzvah même, c'est-à-dire dans le commandement lui-même, un récitatif qui devait absolument accompagner le geste. C'est-à-dire que j'apporte ces bikurim, mais je n'apporte pas simplement, je ne dépose pas simplement le présent, je dois absolument accompagner ce geste d'un récitatif, verbaliser les les choses. C'est tellement important, Jean, de pouvoir verbaliser les choses, parce que lorsqu'on les verbalise, eh bien, on les intègre mieux. C'est-à-dire comprendre ce que je suis en train de faire. Ne pas le faire machinalement, mais comprendre qu'il y a dans ce geste-là une notion de reconnaissance. C'est très très important d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, de la reconnaissance vis-à-vis de ceux qui nous donnent au quotidien. C'est très très important. L'homme, je crois, par nature, a tendance à être un petit peu ingrat, et on doit l'éduquer absolument dès son plus jeune âge, et vraiment au quotidien, et on sait à quel point cette notion de hakaratatov, cette notion de reconnaissance est importante chez nous, eh bien, l'homme doit avoir cette capacité à pouvoir dire merci, à comprendre pourquoi il dit merci, d'où l'importance ici de l'accompagner d'un récitatif. Le harami, Oved David, dont il est question ici, l'araméen, deux explications possibles, mais l'explication qui est rapportée ici par Rashi, c'est de nous dire qu'il s'agit de Lavan. Ouais. Lavan, comme vous le savez, qui a totalement perturbé les plans de Yaakov, et qui, lorsqu'il l'a accueilli, donc a failli tout simplement le perdre et perdre l'histoire du peuple juif. Yaakov a été extrêmement intelligent, extrêmement digne. Il a réussi un petit peu à contourner les plans de Lavan, mais on le sait, eh bien, Lavan a joué ce rôle qui aurait pu causer la destruction même de l'histoire du clan Israël, alors qu'il commençait à peine à se créer, puisque bien sûr il n'y a pas de peuple encore d'Israël à proprement parler à ce moment-là. Ce sont les prémices, justement, pour faire le lien avec notre mitzvah du peuple, et c'est à ce moment-là donc que Yaakov a eu cette capacité, bien sûr, à réagir.
Et dans la paracha, il y a marqué une phrase qui dit « Et Hachem t'a distingué ». Qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem distingue un peuple, ou quand un peuple distingue Hachem? Il y a quelque chose derrière ?
Alors, il y a effectivement une réciprocité ici qui est vraiment particulièrement intéressante et qui nous renvoie bien sûr nécessairement à ce Naase Venishma, à cette élection, mais qui est souvent mal comprise. On en a parlé déjà très très régulièrement, puisqu'elle est toujours et malheureusement souvent comprise comme une forme de distinction qui viendrait mettre le clan Israël au-dessus, mais dans le sens un petit peu d'un peuple qui viendrait écraser les autres et qui aurait une forme de supériorité. Or, il n'est pas question d'avoir une supériorité dans cette distinction. Il y a tout simplement une mission particulièrement noble qui est celle de porter le message d'Akadosh Baruch Hu, qui est donc celle de venir véhiculer un petit peu le sens du message que contient la Torah. Et en ce sens, eh bien, c'est une distinction, mais comme on le sait, réciproque, puisque le clan Israël lui a accepté sans hésitation ce message qui lui était proposé. On le sait, eh bien, Kadosh Baruch Hu fonctionne un petit peu comme un miroir, et au moment donc où le clan Israël accepte volontairement, eh bien, il y a cet engagement réciproque qui se fait de la part d'Akadosh Baruch Hu, et ce qui crée ce lien, rappelons-le, vraiment indéfectible.
On va sauter un peu les passages, parce que sinon on ne va pas parler des malédictions et des bénédictions, ce qui est très intéressant. Dans le texte, il y a 12 maudits soient, et à chaque fois on dit et le peuple répond Amen. Comment vous expliquez-vous ce Amen ?
Alors Amen, vous le savez, c'est un mot qui revient très très souvent, puisque c'est déjà ce que l'on dit notamment à la fin d'une bénédiction. Lorsqu'on écoute une bénédiction, ouais, on a l'habitude de répondre Amen à la bénédiction, on répond également Amen au Kaddish, aux prières essentielles. Le Amen est une sorte d'approbation. Il y a plusieurs manières, bien sûr, de comprendre ce Amen d'après nos maîtres. Une des raisons, alors, bien sûr, c'est de comprendre le Amen comme un Kel Melech Neeman, qui serait donc l'acrostiche de Kel Melech Neeman, donc un dieu de royauté, de fidélité. Le Amen est en réalité également le tampon de la vérité, c'est-à-dire le fait de reconnaître quelque chose, de comprendre que c'est une en soi à la fois une réalité, une vérité absolue. Et donc le Amen ici est tout simplement là. Et lorsque le peuple va répondre Amen à la fin de ses bénédictions ou de ses malédictions, c'est tout simplement montrer son approbation, non pas sa volonté lorsqu'il s'agit des malédictions de recevoir la malédiction, mais d'en comprendre le sens et de comprendre les répercussions de ces malédictions. Donc c'est une manière en tout cas vraiment avisé de manifester à la fois sa compréhension des choses et le fait que on adhère en tout cas à ce qui vient d'être dit.
Alors on va passer aux bénédictions d'abord. On va pas tous les lire, on va tous vous faire un long commentaire, une question simple. Quand on lit les bénédictions, on a l'impression qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont faites au niveau matériel et pas au niveau spirituel. Je connais votre réponse, mais je voudrais que vous nous la redonniez.
Alors qu'est-ce que vous envisagiez dans ma réponse, Jean?
De dire que quand on est bien matériel, et ben on est mieux aussi spirituel.
Alors effectivement, je pourrais dire effectivement le bien-être matériel est effectivement, enfin n'est pas contradictoire contrairement à ce qu'on imagine. On a souvent tendance à vouloir absolument opposer le matériel et le spirituel. Vous savez que ce n'est absolument pas la vision de la Torah et que d'ailleurs le principe même et ce que l'on attend d'un juif, c'est d'être capable d'élever justement le monde matériel dans lequel il existe. Nous ne refusons pas le monde matériel dans lequel nous sommes. C'est une réalité. Nous vivons dans un monde matériel, d'où l'objectif justement d'essayer d'élever un petit peu cette matérialité et de l'intégrer dans le contexte également spirituel dans lequel notre neshama, notre âme évolue. Et donc effectivement, le bien-être matériel peut être, alors c'est toujours à double tranchant, mais en tout cas, il n'est pas forcément antinomique et il ne s'oppose pas forcément au bien-être spirituel. Maintenant, il faut savoir qu'on a une deuxième lecture possible également de ces bénédictions et qu'au travers de bénédictions qui, lorsque vous les lisez superficiellement dans le texte, peuvent apparaître comme des bénédictions matérielles, se cache en réalité, derrière ces bénédictions, eh bien, une allusion à quelque chose qui est d'une dimension spirituelle. Vous avez toujours deux lectures possibles dans la manière dont vous lisez ces bénédictions. Les comprendre vraiment comme le pshat au pied de la lettre, comme étant des bénédictions matérielles, ou bien avoir une lecture un peu plus profonde et savoir déceler également au travers de ces bénédictions matérielles, en réalité, une allusion à des bénédictions qui sont d'un tout autre ordre.
Alors, on va passer aussi rapidement sur les malédictions. En préparant l'émission, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question, à part la frayeur qu'on a quand on lit le texte. C'est vraiment très, très hard, comme on dit de nos jours. Qu'est-ce que vous pouvez en dire en un mot sur ces malédictions?
Alors, ce qui frappe toujours, c'est ce déséquilibre dont je parlais. Ce déséquilibre, lorsque nous lisons le texte des bénédictions et des malédictions, on est toujours interpellé par le fait que le passage des bénédictions est extrêmement court et que celui des malédictions est extrêmement long. D'ailleurs, le terme malédiction, même le terme même en français, est un terme toujours effrayant, avec une connotation extrêmement négative et péjorative. En hébreu, c'est klala. Je ne vous dis D'accord. pas que le terme tel qu'il est rendu en hébreu est censé indiquer quelque chose, adoucir le concept, ou est censé en tout cas le rendre plus potable. Mmh. Mais pour autant, alors déjà comprendre que ce déséquilibre apparent, en réalité, c'est un déséquilibre de façade, parce que ce qui est important au travers de ces bénédictions et de ces malédictions, c'est la puissance que renferme chacun d'entre eux. Donc, pour avoir un concentré de bénédictions, en réalité, sur quelques bénédictions, qui peut venir concentrer une multitude de clalotes, de malédictions. Donc cet équilibre apparent, en réalité, n'est qu'un équilibre ou un déséquilibre de façade. Plutôt ici, en l'occurrence, il s'agit d'un déséquilibre qui, en réalité, n'est plutôt qu'un déséquilibre de façade. Je crois que s'intéresser au texte des malédictions, c'est au contraire, c'est s'éviter pas mal d'ennuis, c'est parvenir également à comprendre un certain nombre de choses. Donc plutôt que de lire ce texte la peur au ventre, je crois qu'il y a une nécessité de lire ce texte en profondeur, d'essayer au maximum en tout cas de regarder ce que cachent les versets, de lire ce que nos commentaires nous disent sur ces différents versets, et plutôt que d'essayer de décrypter l'avenir ou de vivre la peur au ventre, au contraire, essayer de comprendre quelles sont les choses, quelles sont les erreurs, des fois quels sont les errements de l'homme qui peuvent entraîner certaines catastrophes. Encore une fois, sans jamais, parce que je crois que ça serait vraiment une erreur, essayer systématiquement de vouloir chercher faire le lien entre tel klala et tel événement qui a pu se passer. Certaines choses, bien sûr, que certaines klalotes peuvent évoquer.
Ben, certains le font.
Certains événements. C'est une évidence absolue que certaines klalas peuvent se rapporter à certains événements déjà que nous avons déjà vécu. D'ailleurs, c'est souvent plus facile de le retrouver une fois que l'événement est passé qu'avant. Mais pour autant, je crois que vraiment le travail à faire, c'est de comprendre pourquoi ce texte est là. Ce texte a une vocation pédagogique, surtout, bien sûr, qu'il y a même si on peut y voir aussi une dimension de névoie, une dimension prophétique, mais je crois qu'il y a une dimension pédagogique qui est très, très importante, et donc comprendre finalement quelles peuvent être les conséquences de nos actes. Et heureusement, l'homme est comme ça, il faut souvent un petit peu le secouer, et pour lui expliquer sa récompense, on n'a souvent pas besoin de lui répéter les choses deux fois. Pour expliquer les conséquences négatives de quelque chose, il faut être un peu plus direct et répéter les choses de manière un peu plus longue. Peut-être me permet encore vraiment ce très rapide commentaire sur un texte bien connu dans le Hallel, où nous récitons dans ce Tehilim, Hashamayim, Shamayim l'Hashem, ve Haaretz Natan Ivne Adam. Donc les cieux, et on répète deux fois, les cieux sont à Hashem, quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Et on peut se demander pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit des cieux, on doit le répéter deux fois, Hashamayim, Shamayim l'Hashem. et lorsqu'il s'agit de la terre, on ne le dit qu'une seule fois. Bien, la réponse, elle est évidente, c'est que lorsqu'il faut rappeler que les cieux appartiennent à Hachem, on a besoin de le répéter deux fois. En réalité, de dire que la terre l'a donnée aux hommes, ça, on l'intègre beaucoup plus rapidement lorsqu'il s'agit de quelque chose qui nous appartient. Si on nous le dit une fois, l'homme, naturellement, l'intègre immédiatement, comprendre que certaines choses, malheureusement, ne sont pas toujours dans notre domaine, ça, c'est quelque chose qui demande parfois d'être répété.
Alors, on va revenir un peu au début de cette émission. Je sais que ça vous tient à cœur et je voulais que vous le répétiez. Le 15 mars, à la fin de cette même émission, vous disiez aux auditeurs « Ne venez pas à la synagogue si vous avez le moindre doute sur votre état de santé. » Est-ce qu'aujourd'hui, vous rediriez exactement la même chose ? Vous me disiez « Même si vous avez un kaddish, même si vous avez une fête, même si vous avez quoi que ce soit, moindre doute, vous restez chez vous. »
C'est le vendredi 13 mars, c'est plus exactement. Ouais. La décision a été prise le dimanche 15. Et Jean, non seulement je le redis, mais je le redis avec encore plus de force. Je me rappelle de cette émission comme si c'était hier, parce que j'étais déjà malade à ce moment-là sans le savoir. Les symptômes se sont déclarés quelques heures après. Sinon, je n'aurais pas été dans le studio. Si j'avais déjà des symptômes, je n'aurais même pas pris le moindre risque de pénétrer à l'intérieur de ce studio. Mais bien sûr, je le redis, si vous êtes malade, si vous avez des symptômes, ne venez pas. Les personnes qui se sentent particulièrement fragiles ou vulnérables et qui ne se sentent pas de venir à la synagogue, eh bien, ne venez pas. Pour autant, je tiens également, c'est mon devoir également de rassurer les auditrices et les auditeurs. Nous avons quand même du recul par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Nous avons été en mesure aujourd'hui de mettre en place un process extrêmement strict qui nous permet de désinfecter la synagogue, je crois, comme nulle part ailleurs. Les moyens dont nous disposons aujourd'hui et le matériel qui est à notre disposition est un matériel vraiment dernier cri, qui est utilisé dans les hôpitaux. Et donc, que ce soit la distanciation sociale, que ce soit la désinfection, que ce soit la manière dont nous gérons les flux à l'intérieur du bâtiment, le port du masque, et je le rappelle, portez votre masque, de toute façon c'est obligatoire, mais portez-le correctement, et je ne vais pas me mettre à la place du médecin, mais vous le savez, si vous baissez votre masque ou vous le montez, que vous ne le portiez pas du tout, ou que vous le portiez à moitié, c'est exactement la même chose. Donc un masque mal porté, ça n'a aucun intérêt, et donc portez votre masque correctement, même si ce n'est pas toujours agréable, du début à la fin de l'office. Je crois que dans ces conditions, parce que je veux faire passer un message positif, eh bien, les personnes doivent se sentir en sécurité, elles le sont à l'intérieur du bâtiment. Bien sûr, les personnes qui ont des symptômes, qui sont malades, ne doivent pas venir. Pour les autres, eh bien, elles peuvent venir à la synagogue sans risque. Une personne qui ne veut pas venir parce qu'elle se sent trop fragile, eh bien, on la comprend parfaitement. Mais en tout cas, que les autres n'aient pas peur de venir à la synagogue en pensant que les choses ne sont pas respectées ou que les mesures de désinfection ne sont pas appliquées, elles le sont, et je peux vous dire qu'elles le sont très scrupuleusement.
Merci à vous, monsieur le grand rabbin. Shabbat shalom, quand même. Et rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Lucas pour la réalisation technique de l'émission. À vous tous et à vous toutes. Shabbat shalom. Rendez-vous la semaine prochaine. Et portez-vous bien. Soyez prudents.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidel prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the